Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Prince et moi. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce 25e numéro de La Valeur de l'Homme sur Fréquence Protestante. Sans doute faudrait-il bannir le mot « fan » de notre vocabulaire tant il ne dit rien du lien qui unit un artiste à ceux qui le suivent. Dans l'imaginaire médiatique, le fan est un type bizarre, un peu geek, socialement inadapté, qui vénère une idole de manière pathologique. D'autres mots seraient davantage parlants qui rendraient mieux compte de cette relation particulière. On pourrait ainsi parler d'un mélomane, d'un aficionado, d'un amateur, d'un spécialiste ou encore d'un passionné de tel groupe, de tel courant musical, de tel peintre ou de tel cinéaste. Sauf que cette passion a un coût. Suivre la production d'un chanteur, c'est acheter des albums, des singles ou les disques des groupes qu'il produit. C'est aussi le suivre en concert partout dans le monde au risque de la course et de la ruine, car la passion vire souvent à l'addiction. Mon invité d'aujourd'hui, Raphaël Melki, a été pris dans cette addiction, une addiction à Prince, l'un des musiciens les plus importants de notre temps. La première découverte de Prince a fonctionné sur lui comme le fait le premier shoot pour un drogué. Une sensation merveilleuse, presque mystique, qu'il n'aura de cesse que de retrouver. Chaque disque fonctionnant comme une dose à renouveler encore et encore, en allant chercher morceaux inédits et pirates circulant sous le manteau. Et le dealer en chef, Prince lui-même, alimentait le trafic en distillant des centaines de titres et en se produisant en concert et en after-show pendant des années. À côté du plaisir de la musique, il y a cependant une douleur intime, celle d'être pris dans une passion à la fois structurante de la vie personnelle, mais aussi dévastatrice, surtout quand l'idole s'éteint. L'addiction est-elle le prix à payer pour aimer un artiste ? Cette question, nous allons la poser à Raphaël Melki, qui signe un ouvrage sur Prince, à mi-chemin entre autobiographie d'une passion et récit musical. Bonjour Raphaël Melki.
Bonjour.
Raphaël Melki, vous êtes depuis des années animateur sous le pseudo de Rafi du principal site français de fans, schkopi.com, S-C-H-K-O, et spécialiste reconnu du kit de Minneapolis. Dans le civil, vous êtes chef d'entreprise et vous publiez un livre qui s'intitule Purple Femme, F-A-M, Purple Femme, histoire d'une addiction à Prince aux éditions Renaissance du Livre, préfacé par le saxophoniste Eric Leeds, un livre qui sort vraiment ces jours-ci. Alors, première question, Raphaël Melki, votre livre s'appelle Purple Femme. Pourquoi femme et pas fan ?
Exactement. Très bon résumé, très belle introduction.
Merci.
Merci beaucoup. Purple Femme parce que... comme vous venez de le dire, le mot fan est un peu trop galvaudé et Prince lui-même, lors d'une interview, s'est repris en disant qu'il préférait parler de femme comme diminutif de famille ou family plutôt que fan, qui est donc le diminutif de fanatique et qui trouvait un peu trop fort pour définir la relation que son public pouvait entretenir avec lui.
Donc le public de les fans de Prince sont des femmes, ils sont membres d'une grande famille.
Ils sont plutôt femmes que fans, et c'est un terme qui est repris. Je m'y attarde beaucoup plus ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et je vois que de la part de certains de ces anciens musiciens ou même de personnes qui le suivent eux-mêmes, le terme femme est repris.
À l'origine de votre livre, Raphaël Melki, il y a la volonté de répondre au fond à votre entourage qui s'étonne que vous réagissiez si mal ou que vous réagissiez de manière extrêmement attristée à la mort de Prince. Prince décède le 21 avril 2016. Vous écrivez dans votre ouvrage « J'ai voulu raconter pourquoi la douleur causée par le décès d'un artiste que l'on aime est à prendre au sérieux et à quel point elle peut être dévastatrice, suscitant un profond questionnement sur la place immense accordée à un chanteur dans sa vie. » Donc, il y avait là une douleur très forte, mais qui était compliquée, qui était évidente pour vous, qui était compliquée à communiquer au-delà, justement, de la famille des fans.
Exactement. Au-delà de la famille des fans et au-delà de la famille. Effectivement, les proches connaissent ma passion et ont suivi cette progression dans l'écoute et dans le suivi que j'ai pu avoir pendant près de 30 ans de cet artiste. Par contre, l'entourage un peu plus large, c'est-à-dire les connaissances, les clients, les collègues ou même malheureusement lors de sa mort, les différents journalistes que j'ai pu rencontrer, ont un rapport difficile à cette peine, en tout cas une compréhension difficile. Ils sont assez, ils sont bienveillants, mais on n'a pas l'empathie immédiate qu'on peut avoir lorsqu'on dit j'ai perdu un proche, un parent ou quoi que ce soit, parce que on peut s'identifier immédiatement à cette peine. Donc on a une empathie immédiate. Lorsqu'on présente une vraie tristesse à la mort d'un artiste, l'empathie est pas immédiate et on sent un sourire un peu pas moqueur, mais il y a une voilà, c'est compatissant, mais on sent l'incompréhension.
On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris dans le lien que vous aviez pu établir. Exactement. Avec un artiste, un chanteur, et qui en plus était très incarné pour vous, parce que vous alliez le voir en concert.
Tout à fait. Donc, tout à fait. Et c'est parce que d'abord, il y a une image qui est véhiculée. C'est-à-dire que si vous suivez un artiste, on a une image en France, voilà, qui est assez caricaturale. On le sait avec, voilà, la plupart du temps, on nous présente des fans de Johnny, des fans de Claude François. Donc il y a une part de mimétisme qu'on voit pas nécessairement chez les fans de Prince, en l'occurrence. Ensuite, on pense que l'appartement où vous allez recevoir les personnes qui s'intéressent au sujet va être un temple dédié à l'artiste. Ce qui n'est pas non plus le cas. Alors, on peut avoir deux, trois touches ci et là, mais on n'est pas non plus dans ce qu'on peut voir dans certaines émissions qui veulent faire du sensationnalisme. Donc d'un coup c'est troublant parce que l'attachement que vous avez, comme il n'est pas visible et perceptible, on ne s'attend pas à ce qu'il puisse être aussi fort, aussi important, voire aussi constitutif de votre personnalité.
Dès les premières pages de votre livre, vous dites à quel point, même avant Prince, au fond, la musique vous donne du bonheur. Et vous êtes assez jeune, un découvreur, un passionné déjà, et en tout cas, quelqu'un qui va consommer, un gros consommateur de musique, au sens adulte du terme. Hein, mais voilà, vous allez acheter des disques. Donc il y a quand même déjà, dans votre histoire personnelle, une évidence de l'importance de la musique.
Je ne sais pas si c'est la rencontre de la musique ou la rencontre d'une source de plaisir, d'un plaisir associé. Je m'aperçois que la musique procure des émotions. Alors effectivement, c'est pas tout de suite avec Prince, hein, je suis assez jeune, j'ai 12-13 ans, et je découvre que la musique procure des émotions. Ça veut dire que au contact, en l'occurrence je débute un peu de manière ironique, mais c'est une réalité, avec un clip de Michael Jackson, donc Billie Jean, et je quitte le lieu où je vois ce clip, et cette terre devient entêtant, et avec ce besoin, ce désir de le réécouter, pour reprendre cette sensation, retrouver ce plaisir. Et donc, comme je suis... maintenant, avec le recul, je peux mettre des mots, mais vraisemblablement, j'étais déjà insatiable lorsque j'étais confronté à un plaisir de la sorte. Je demande à mes parents, à ce moment-là,
de m'acheter... Votre père est un peu initiateur aussi, voilà, il achète beaucoup d'albums.
Il y a de la musique chez moi. Il y a de la musique chez moi, pas du tout de manière ni dogmatique, ni avec une volonté... réel de transmettre. Il y a de la musique, c'est normal. Mon père achète des disques, les écoute, me dit tiens regarde là c'est bien, mais il n'y a pas ni une intellectualisation ni une envie de décortiquer. Effectivement il y a une notion de plaisir. Mon père prend du plaisir aussi en écoutant certains titres. Et aussi son souvenir d'avoir abandonné dans son parcours de vie un certain nombre de disques. Et je le sentais attaché à ces disques qu'il avait abandonnés lorsqu'il avait quitté l'Algérie pour venir en France. Et c'est vrai que dans les dans la nostalgie de mon père, il y avait souvent ça qui revenait. C'était un des rares faits. Ah, j'avais ce disque de Ray Charles, ça, j'avais ce disque de James Brown. Enfin voilà, c'était effectivement soit le jazz, soit la musique noire déjà. Donc c'est voilà, tout naturellement que j'avais une sensibilité pour cette musique. Et effectivement, plutôt que de juste écouter ou d'enregistrer sur des cassettes ce qui passait à la radio, très tôt, vers 12, 13, 14 ans, j'emmenais ma maman les week-ends acheter des disques.
Voilà. La petite histoire, c'est que c'est votre père qui achète Purple Rain.
C'est mon père qui achète Purple Rain. C'est mon père qui achète Purple Rain à la fois comme une provocation parce qu'il y a beaucoup de Michael Jackson à la maison
et aussi
exactement. Donc moi, je joue le jeu du ronchon en face de cette chose et aussi parce qu'il trouvait que c'était bien. Parce que voilà, il trouvait le personnage intéressant, il trouvait les titres qui étaient dessus bien, il trouvait ce qu'il avait entendu à la radio agréable, et donc ce disque est rentré à la maison comme ça. C'est mon père qui a amené le disque et c'est ma mère qui m'a emmené voir le film. Voilà.
Raphaël Melki, un jour de 1986, vous êtes âgé de 13 ans, vous allez au Zénith avec des gens qui sont un peu plus âgés que vous parce que vous avez appris que Prince se produisait là. Et ce jour-là, c'est un choc artistique. C'est le début de votre passion princière. Ça change votre vie, vous commencez à consommer du Prince, même si le mot pose problème. On va le dire autrement, vous commencez à collectionner, c'est-à-dire et là, il faut tout acheter.
Exactement. C'est le début de ce que vous avez présenté dans votre introduction. C'est le premier shoot, voilà. Donc, on pourrait s'attarder longuement sur ce choc, mais c'est un choc global, artistique, visuel, sonore. C'est à la fois le vrai premier concert, on va dire, à la fois la confrontation à cet artiste en vrai. C'est-à-dire, ce n'est plus une image, c'est plus, je le vois de manière réelle. Donc, il y a énormément de choses. C'est vraiment une première fois qui est un cocktail constitué de dizaines et dizaines d'émotions différentes. Et à partir de là, la collection commence. Alors, c'est pas une collection, c'est-à-dire c'est la quête de la musique, d'écouter toujours plus de musique. Donc la chance que j'avais, c'est que Prince avait une carrière qui était déjà bien entamée. Donc ça commence déjà par la collecte du passé. Donc on récupère les albums qui sont sortis précédemment, et puis on voit ce qu'il y a autour de l'album en cours pour continuer d'approvisionner cette boulimie. Et la chance ou la malchance, on voit ça comme on veut, avec Prince, c'est qu'à ce moment-là, il y a de quoi se nourrir. C'est-à-dire que il y a des productions, il y a des singles, ça veut pas forcément dire grand-chose aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des singles qui ont des phases B inédites, qui ne sont pas sur l'album. Donc en fait, il y a la possibilité autour d'un disque, parce que dans la de se nourrir. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement dans la carrière des artistes populaires, la sortie d'un album est un moment important où généralement après il y a une tournée qui impose donc un délai avant l'album suivant qui peut être d'une bonne année et encore je suis généreux à parfois plusieurs années. Avec Prince, c'était pas le cas. Parfois il se passait 9-10 mois pour qu'on ait quelque chose qui arrive. Donc en fait, on était pris dans une espèce de train et nous emmener comme ça vers une production qui ne cessait jamais.
Sur ce premier concert, il y a effectivement le choc musical et émotionnel que vous ressentez, et puis il y a immédiatement, alors peut-être tel que vous le reconstituez aujourd'hui, mais qui a été ressenti à l'époque, la descente, pour continuer de rester sur l'analogie avec la drogue. Il y a une descente qui est que après le concert, il y a une espèce de sentiment de vide, ou en tout cas, et avec l'idée d'y retourner le plus vite possible.
Il y a un bonheur qui est vraiment proche de la plénitude absolue, c'est-à-dire qu'on a tous les sens qui sont en exergue, vraiment, il se passe quelque chose de physique et quelque part, je souhaite quand même à n'importe quelle personne qui s'intéresse à la musique, à un moment donné, d'aller au-delà juste du plaisir auditif, c'est-à-dire de pouvoir se faire emporter comme ça par quelque chose. Et si j'en parle librement, c'est parce que le fait d'avoir géré un site internet qui regroupe beaucoup de témoignages de fans ou de personnes qui ont apprécié, qui ont un peu lâché, parce qu'il a une carrière quand même assez longue et dense, on partage ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la confrontation au live, quelle que soit la période, nous a transformé, a modifié notre rapport à cette musique. Et le lendemain, je découvre que effectivement, c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini, j'ai vécu quelque chose d'excessivement incroyable, donc j'ai compris après qu'il y avait un mélange d'adrénaline et de tout un tas d'effets comme ça, très très grisants, et donc bah, le lendemain, ça paraît plus fade, ça paraît plus gris, ça, et donc il y a quelque chose de très triste, parce qu'on a l'impression que c'est derrière et que ça pourra plus jamais se reproduire.
Je disais Prince alimenter le marché, Prince dealer en chef, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un côté initiation, c'est-à-dire que vous commencez à rencontrer des gens à Paris qui vendent des inédits, vendent des pirates. Donc là, on rentre un peu dans un univers, ça vous a plu.
Il y a un parcours initiatique. Il y a un parcours initiatique, c'est-à-dire qu'il y a les grands, alors des gens qui deviennent vos grands frères, vos grands cousins, ou voilà, qui en savent un peu plus et qui transmettent. Donc ils transmettent cette connaissance déjà du réseau princier, c'est-à-dire les productions, les musiciens qui ont œuvré d'un côté, qui vont œuvrer de l'autre. Donc une espèce de toile comme ça d'artistes qui permet de continuer de progresser à l'intérieur de ça. Et puis la découverte d'un marché parallèle. Effectivement, Prince est un des artistes les plus piratés au monde. C'est-à-dire que très clairement, il y a des gens qui ont volé des titres chez lui à Paisley Park, donc dans son fameux studio, à une époque où tout n'était pas encore dans le fameux coffre
qui fait parler de lui.
Tout n'était pas numérique. Et donc il y a un certain nombre de titres qui sortent et de concerts pour deux raisons très rapidement. La première, c'est que il joue énormément en live, plus à la fin des concerts. Parfois, il fait des after-shows, donc des concerts après le concert. Et l'ensemble de ses prestations scéniques sont enregistrées, et donc on les retrouve sous le manteau. Et comme elles sont, comme ils distillent souvent des versions différentes ou des titres inédits, elles ont un caractère très très attractif. Et puis, en plus, comme il est très 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 productif en termes de nouvelles compositions, on a un nombre de chansons assez important à cette période, donc entre le milieu des années 80 et la première partie des années 90. Et donc, on a comme ça, des titres qui arrivent, et comme vous le dites, qui continuent d'entretenir cette dépendance naissante.
La dépendance et la flamme. You don't have to be beautiful. De l'homme, Prince et moi, nous sommes en compagnie de Raphaël Melki. Vous écrivez, Raphaël Melki, dans votre ouvrage Purple Femme, la musique de Prince devient alors délicieusement obsédante, c'est la période dont on est en train de parler. Je vis en permanence avec un air en tête et le besoin de l'écouter est fondamental. Dans la lecture que j'ai pu faire de votre ouvrage, j'ai l'impression de la description d'un état amoureux, c'est-à-dire que, au fond, vous êtes amoureux de cet artiste et lui aussi envoie de l'amour. Il y a à la fois le sentiment de plénitude et puis il y a des sentiments qui semblent circuler, c'est un peu l'homme de votre vie. Prince.
Oui, indéniablement. Alors après, effectivement, on sait que l'amour a plusieurs formes et voilà, je n'ai pas vraiment de désir pour Prince, mais effectivement, il occupe sa musique. Alors j'insiste, c'est pas du tout pour m'éloigner de l'homme, mais c'est que souvent chez les fans d'artistes de musique populaire, pop, c'est-à-dire les icônes de MTV, etc. Il y a un culte du personnage, c'est-à-dire on a des posters, on a tout un tas de choses, il y en a qui essaient de ressembler, on sait que ça existe. au début, le personnage m'intéresse, mais je suis pas dans un... j'ai pas un rapport direct à l'homme. C'est vraiment sa musique qui m'obsède. C'est-à-dire que, voilà, comme vous venez de le dire, je vais au lycée et j'entends, j'ai de la musique dans les oreilles. Même si je n'ai pas un casque sur les oreilles, j'ai une musique, j'ai un air, je fredonne, à l'intérieur de mes pensées, de la petite voix que vous avez dans la tête, j'ai de la musique. Et j'ai sa musique. Et effectivement, quand je sors des cours, je rentre chez moi pour écouter de la musique. Je rentre chez moi écouter de la musique, comme on peut rentrer chez soi pour regarder un film ou lire un livre. C'est-à-dire que je m'arrête dans mon activité du quotidien, je mets un casque sur les oreilles et j'écoute un disque du début à la fin, comme on va voir un film. Et j'insiste parce que je regrette, parce que malheureusement j'ai moins le temps, et peut-être moins la disponibilité, mais en tout cas pendant toutes ces années, j'ai cette disponibilité où je m'arrête pour écouter un disque et je me plonge à l'intérieur du... Alors, je vais employer des mots qui, j'espère, parleront à vos auditeurs, mais du livret ou de la pochette ou des paroles. Je tiens le disque dans les mains. Il y a un rapport physique quand même à la musique qui est encore... Ben voilà, qui est pas entièrement digitalisé et numérique. Et donc, je passe un moment avec cet homme que j'aime peut-être, mais qui, en tout cas, de par sa musique, me donne beaucoup.
Cette histoire qui vous lie à la musique de Prince, il y a alors la fondation d'un site internet et d'un forum, mais il y a aussi pour vous dans votre vie des moments très forts, c'est-à-dire des moments où vous, j'allais dire presque des tripes, hein, pour être encore dans l'analogie, mais des moments où en tout cas vous rencontrez les musiciens de Prince à Paris, à Minneapolis, vous rencontrez Jesse Johnson qui est l'un des inspirateurs, vous organisez vous-même des soirées, vous faites venir des gens en France de la scène de Minneapolis, vous croisez Prince toujours avec une distance. Donc il y a là on monte en puissance aussi, c'est-à-dire que votre biographie a été marquée par ces moments forts où vous approchez de la musique telle qu'elle est incarnée.
Me replonger dans la somme des événements que vous venez de mentionner a été assez surprenant parce qu'effectivement je n'ai pas décidé d'être une sorte d'activiste de cette musique. J'ai rencontré des gens qui étaient très impliqués dans cette musique, des gens qui sont des amis aujourd'hui et qui, alors que j'étais encore lycéen, essayaient de professionnaliser leur passion en montant un fan club, une boutique à Paris entièrement consacrée à l'artiste. Je trouvais ça fascinant. Et donc pour moi, c'était normal que cette passion ne soit pas vécue dans mon coin, mais puisse être partagée. Partagée avec d'autres, d'où l'arrivée du site assez tôt, à la fin des années 90. Donc d'où l'arrivée du site. Et puis aussi vécu là où elle se passait, donc aux États-Unis, souvent à Minneapolis, parfois ailleurs, à Los Angeles ou dans d'autres villes, et ça n'a pas été calculé, c'est-à-dire que j'avais besoin, envie, toujours dans cette progression d'en vouloir plus, de voyager. Et quand on se déplace, il semble qu'on force un peu la chance. Et parfois je tombais le bec dans l'eau. La première fois que je suis allé à Paisley Park, chez Prince, je suis arrivé devant la grille et je suis resté devant la grille. Soyons très clairs. Ouais. Voilà. Donc, mais j'aurais pu être très découragé. Et, non. J'ai tenté de nouveau ma chance en me disant qu'il fallait que j'y reste peut-être un peu plus longtemps. Et effectivement, la chance m'a souri. Donc, elle m'a souri, d'abord en pouvant rentrer dans son studio. Alors, on peut parler de pèlerinage, de l'entrée dans le temple et toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose, qui est assez proche de ça. C'est-à-dire qu'on se rapproche, de cette personne. Je vais pas dire de mon Dieu, mais il y a, voilà, on va dans le pays, on rentre dans un bâtiment qui est le culte de sa musique, puisqu'il a, il a construit quelque chose dédié à la musique et non pas exclusivement dédié à sa personne. Ce qui est encore une fois, assez important pour le personnage. Et puis, j'ai pu le voir dans des conditions qui étaient les conditions idéales. C'est-à-dire chez lui, en petit comité, lors d'un concert, et puis après, lors d'une répétition, là, on était encore en plus petit comité, puisqu'on était une vingtaine de personnes la première fois que ça s'est produit, puisque c'est par chance produit plusieurs fois. Et là, effectivement, ça devient incroyable, puisque pour répondre à la question de la rencontre, mes rencontres avec lui étaient tout le temps liées à la musique. C'est-à-dire que c'était soit en concert où j'étais très près de la scène, où ça me permettait d'essayer d'avoir ce que beaucoup de fans essayent d'obtenir et obtiennent aussi, c'est pas exclusif, c'est-à-dire le fameux eye contact, c'est-à-dire le moment où l'artiste vous regarde et vous donne l'impression que dans cette poignée de secondes, il chante pour vous. Et ensuite, j'ai pu aussi le vivre dans, donc à Paisley Park ou dans New Jersey, dans sa loge ou dans un studio de répétition, où là on était très très peu et où effectivement il communique avec vous par des effets de regard, le fait de vous tendre le micro, le fait de vous faire un clin d'œil ou le fait de vous imposer, de taper les mains comme taper des mains comme ceci ou de danser comme cela, peu importe, mais c'est le moment où vous avez un échange. Et donc forcément, vu qu'il est très assez inaccessible le reste du temps, qui parlait à cette époque-là très peu dans les médias, finalement le seul moment où vous pouvez avoir un contact avec lui, c'est dans ces moments-là. Fin de parenthèse, où moi je peux avoir un contact avec lui, c'est dans ces moments-là. Parce que je constatais, dans ces rencontres, que pour les Américains, et notamment les habitants de Minneapolis, il était beaucoup plus accessible dans leur esprit, comme un enfant de la ville, et que eux ne mettaient pas la barrière que moi je m'étais mise tout seul. C'est-à-dire que chez lui, quand il passait devant moi, je ne l'apostrophais pas, je n'allais pas lui tendre la main ou quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes que ça ne gênait pas, et tant mieux, hein, il n'y a pas du tout de jugement, chacun vit sa passion comme bon lui semble, et qui l'apostrophait. Moi, je me suis toujours fixé une espèce de barrière invisible où déjà être en face de lui, dans ses conditions et chez lui, c'était déjà immense.
Raphaël Melki, vous écrivez dans votre ouvrage, avec le recul, comment ai-je pu confier à Prince avec autant de confiance les clés de mon bonheur? C'est une question délicate, j'ai envie de vous la poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous avez livré quelque chose à cet homme de votre part biographique?
Écoutez, je ne sais pas si j'en avais à ce point conscience avant le 21 avril 2016. Ce qui est clair, c'est qu'au lendemain du 21 avril 2016, plutôt que m'effondrer chez moi, j'ai aussi essayé de comprendre ce que je ressentais. Parce que ce que je ressentais, cette espèce de grand vide, non seulement je le ressentais, mais en plus c'était partagé. Encore une fois, la chance d'être entouré d'amis qui apprécient cette musique et qui l'ont vécu aussi, enfin avec qui j'ai pu la vivre. Et puis ce site où les gens peuvent, sont quand même assez libres de venir exposer leur avis, par ce biais, j'ai pu voir que ce vide était partagé. Et donc effectivement, c'est-à-dire on a quand même l'impression, j'ai l'impression, mais je dis on parce qu'encore une fois, voilà, je sais que c'est partagé, qu'on va plus être heureux de la même manière. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'on va aller voir d'autres concerts, bien évidemment qu'on écoute d'autres artistes, bien évidemment que sa musique perdure et que, vraisemblablement, les personnes qui sont en train de se battre les droits de ce qu'il a laissé vont tenter de s'enrichir avec, donc de sortir un maximum de choses. Donc, on sait qu'on va avoir de la musique, mais On est à 10 mois, bon, peut-être que ça va se battre, mais 10 mois c'est long quand même pour la perte d'un artiste, encore une fois. Et 10 mois après, on continue d'aller voir de la musique en ayant l'impression que c'est pas vraiment pareil. Et effectivement, qu'une partie du bonheur, en tout cas ce bonheur atypique, a disparu avec lui.
Une part de bonheur s'est éteinte. Merci beaucoup Raphaël Melki, cette émission s'achève. Je vous remercie vraiment beaucoup beaucoup et chaleureusement d'être venu aujourd'hui à Fréquence Protestante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Purple Femme, histoire d'une addiction à Prince, aux éditions Renaissance du Livre. Ça sort ces jours-ci, là, en mars 2017. Merci à Arnaud et Boris à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt. If she could be muse to the pharaoh.